Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un vendredi qui rime avec hausse des prix sur les autoroutes et en grande surface pour certains produits de marque, conséquence de la loi alimentation qui entre en vigueur aujourd'hui et qui doit permettre de mieux rémunérer les agriculteurs. Pas sûr que le mécanisme fonctionne. Explication dans un instant.
La question du pouvoir d'achat, mais aussi de la représentation démocratique, objet d'un 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes demain, des Gilets jaunes qui organisent une marche blanche. Par ailleurs, demain à Paris, dédiée aux victimes de violences policières lors des rassemblements.
À la une encore, la hausse des plaintes pour violences sexuelles. 52 viols par jour en France l'an dernier, déclarés à la police ou à la gendarmerie. De nouvelles révélations de Mediapart sur Alexandre Benalla. Il se serait personnellement impliqué, alors même qu'il travaillait à l'Elysée, dans un contrat de sécurité avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Pékin et Washington annoncent des progrès dans les négociations commerciales. Explication à la fin de ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour consacrée aux promotions limitées dans la grande distribution. Quels effets sur le pouvoir d'achat? On posera la question à une professeure d'économie à l'Université de Lille, Florence Janicatrice.
Deux coups durs ce matin pour le pouvoir d'achat. En ce 1er février, les tarifs des péages augmentent d'1,8% sur les autoroutes. Une hausse que le gouvernement n'a pu empêcher, obtenant tout de même 30% de réduction pour les gros rouleurs. Et puis plusieurs centaines de produits de grandes marques vont voir leur prix augmenter à partir d'aujourd'hui. Conséquence de la loi alimentation qui entre en vigueur aujourd'hui avec un relèvement des prix planchers du seuil de revente à perte. En clair, certains produits comme le Nutella ou le Coca qui étaient vendus jusqu'ici avec une marge très faible pour attirer les clients, devraient augmenter à partir d'aujourd'hui pour éviter ensuite que les distributeurs ne serrent trop les prix avec les agriculteurs français. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Jusqu'à présent, la logique pour la distribution était la suivante. Vendre le Nutella moins cher qu'elle l'avait acheté, le vendre à perte, donc, c'était le moyen d'attirer les consommateurs dans ses magasins. Consommateurs qui, une fois dans les rayons, achètent d'autres produits pour lesquels les marges sont plus élevées. Et sur quels produits les marges sont-elles plus élevées? Souvent, des produits peu transformés, viande ou légumes, fournis par des producteurs sur lesquels on peut facilement faire pression, l'éleveur du coin, par exemple. Il faut redire ici que la grande distribution en France, ce sont trois super centrales d'achat qui font face à une multitude de producteurs. Le rapport de force est donc déséquilibré. Désormais donc, la grande distribution se voit obligée, par la loi, de faire de la marge sur ces fameux produits d'appel. Coca-Cola, Nutella, Danette ou Pernod Ricard pour ne citer qu'eux. La logique, c'est que cet argent gagné, elle en redistribue la valeur en payant un peu plus cher l'éleveur du coin. Une re-répartition des marges qu'aucun mécanisme ne viendra contrôler, mais que les syndicats agricoles réclamaient depuis longtemps. Ils espèrent que, combinés aux autres mesures de la loi alimentation, ce seront les prix payés par la distribution aux producteurs locaux qui vont augmenter. Une mesure dont les effets seront sans doute neutres pour la grande distribution, pour faire venir les consommateurs, c'est sur ses propres marques, les marques distributeurs, qu'elle va diminuer ses marges, ou bien sur des marques de lessive ou de cosmétiques. L'impact sur le prix payé aux agriculteurs, lui, est plus qu'incertain à ce stade.
Pas sûr, effectivement, que la hausse des prix profite in fine aux agriculteurs, comme l'explique Cédric Musso de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
L'analyse du gouvernement souligne que c'est 1,7 milliard de dépenses supplémentaires sur 2 ans pour les ménages. Donc il y a clairement une ponction du pouvoir d'achat et le problème c'est que cette ponction de pouvoir d'achat, elle est inutile et c'est pour ça que nous on lance l'alerte depuis l'évocation même de ce projet car il n'y a aucune mesure contraignante dans la loi qui oblige la grande distribution à reverser le surplus aux agriculteurs.
Cédric Musso de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, il répondait à Stanislas Vazak. La question du pouvoir d'achat encore au cœur hier des manifestations de retraités partout en France. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris, Rennes, Tours, Lyon et Montpellier notamment pour réclamer une augmentation généralisée de leurs pensions et l'annulation de la hausse de la CSG. Le pouvoir d'achat mais aussi la représentation démocratique, objet d'un 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes demain. Des Gilets jaunes qui organisent une marche blanche par ailleurs dans la capitale, dédiée aux victimes de violences policières lors des rassemblements. Manifestations déclarées en préfecture avec, en tête de cortège, des personnes blessées lors des différentes manifestations. Fiona Mogadam.
C'est un gilet jaune lui-même blessé lors d'un rassemblement qui est à l'origine de cette marche blanche. Aujourd'hui, Antonio Barbetta ne se déplace plus qu'avec des béquilles. Il explique qu'il manifestait à Paris le 24 novembre dernier lorsqu'il a reçu une grenade de désencerclement dans le pied.
Lors justement d'une charge des forces de l'ordre, il y a donc un mouvement de foule qui s'est créé. Et donc pour pouvoir échapper justement à cette charge, les nombreux gaz lacrymogènes qu'il pouvait y avoir sur place, on a suivi le mouvement de foule. Et à ce moment-là, quand je me suis retourné, j'ai eu tout simplement la mauvaise surprise de voir la grenade atterrir à mes pieds. J'ai pas eu le temps de réagir ou quoi que ce soit, qu'elle a explosé directement. Donc il s'avère qu'elle est venue traverser ma basket et s'incruster directement sur 3 cm de profondeur dans mon pied.
Avec cette marche blanche, Antonio Barbetta espère sensibiliser l'opinion aux violences policières que subissent selon lui les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui demandent également l'interdiction des grenades de désencerclement et grenades explosives qu'utilisent les forces de l'ordre, mais également les LBD, les lanceurs de balles de défense, tout comme la Ligue des droits de l'homme dont est membre l'avocat Ali Halimi.
Ce ne sont pas ces armes qui permettent d'éviter la violence et de se protéger. En France, il n'y avait pas ces armes et pourtant le maintien de l'ordre pouvait se dérouler correctement. Il est temps que cessent les mutilations, les infirmités sur de simples manifestants. Il est temps que le maintien de l'ordre redevienne une intelligence, redevienne raisonnable.
Depuis le début du mouvement, 2000 personnes ont été blessées, dont une centaine grièvement, selon les Gilets jaunes, qui espèrent que la marche de demain sera pacifique.
Les LBD, les lanceurs de balles de défense, peuvent-ils servir au maintien de l'ordre? La réponse devrait tomber ce matin au Conseil d'État. Le débat ouvert par les Gilets jaunes sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement. C'est ce qu'estime la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel, avec une année 2018 marquée par la persistance du mal-logement qui frappe 4 millions de personnes en France. Appartements surpeuplés, insalubres, voire pas de logement du tout.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Dans les matins, les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17% l'an dernier en France et celles pour agression sexuelle ont bondi d'environ 20%.
Ce sont les chiffres dévoilés hier par le ministère de l'Intérieur dans le sillage du mouvement MeToo. Davantage de plaintes donc déposées, 52 plaintes pour viol chaque jour en France, 79 pour violences sexuelles. Ce n'est pas forcément le signe d'une augmentation de toutes ces violences sexuelles, mais les femmes osent davantage porter plainte. Ils ont été reconnus coupables du viol d'une touriste canadienne dans les locaux de la police judiciaire à Paris en avril 2014. Les deux anciens policiers du 36 Quai des Orfèvres ont été condamnés hier par la cour d'assises de Paris à 7 ans d'emprisonnement. On y revient dans le journal de 7h30. De nouvelles révélations de Mediapart sur Alexandre Benalla. Il se serait personnellement impliqué, alors même qu'il travaillait à l'Elysée, dans un contrat de sécurité avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, par ailleurs soupçonné de lien avec la mafia. Alexandre Benalla aurait ensuite touché de l'argent en lien avec ce contrat, des révélations contradictoires avec ce qu'il avait déclaré la semaine dernière devant la commission d'enquête du Sénat. Par ailleurs, le site en ligne publie l'enregistrement d'extraits de conversation entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase, ancien employé d'En Marche. Des conversations montrant le sentiment d'impunité qui anime l'ex-chef adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Stéphane Robert.
Sur la question du contrat avec un oligarque russe, les déclarations qu'a fait M. Benalla sont contradictoires ou très différentes de ce qui est publié par Mediapart avec un certain nombre de documents et de preuves à l'appui. Par rapport à cela, nous allons continuer à travailler. Je ne veux pas entrer dans un espèce de jeu politique. D'ailleurs, nous ne faisons pas de politique. Voyez-vous, Philippe Bas, qui est le président, ma co-rapporteure, qui est Muriel Jourda, et moi-même n'appartenons pas au même groupe politique. Notre parti, dans cette affaire, c'est le parti de la vérité. Nous voulons voir pourquoi il y a eu tous ces dysfonctionnements et que ça ne puisse pas recommencer. Mais s'il est avéré qu'il y a eu un mensonge sous serment devant une commission d'enquête parlementaire, la conséquence peut être une décision de justice, et nous pouvons saisir la justice dans ce cas-là, et même nous serons en situation de devoir le faire. Et la sanction qui est prévue par la loi, c'est 75 000 euros d'amende et 5 ans de détention au maximum.
Et ce n'est donc pas Stéphane Robert, mais bien Jean-Pierre Sueur, le socialiste vice-président de la commission d'enquête sénatoriale que vous venez d'entendre. Il parlait des nouvelles révélations de Mediapart qui pourraient conduire les sénateurs à saisir la justice. Il répondait à Stéphane Robert. La Chine promet d'accroître ses importations de produits américains et de coopérer davantage en matière de propriété intellectuelle. C'est ce que rapporte cette nuit l'agence officielle Chine Nouvelle, alors que Pékin et Washington tentent actuellement de mettre un terme à leur guerre commerciale. Les deux puissances affichent leur optimisme sans signature encore de tout accord, Loïc Loury.
Deux jours d'intenses négociations, mais toujours les mêmes problèmes de fond. Donald Trump, lui, se montre pourtant très optimiste. Le président s'est exprimé après avoir rencontré le vice-premier ministre chinois.
Nous allons conclure un grand accord commercial. Nous n'en avions jamais eu avec la Chine et maintenant on va avoir ce grand accord commercial avec elle. Si ces négociations fonctionnent, et nous l'espérons, ça va être superbe pour nos deux pays.
Le milliardaire a aussi évoqué la lettre « fantastique », dit-il, envoyée par son homologue Xi Jinping. « Nous sommes à une étape capitale », y affirme le président chinois. Donald Trump, lui, veut croire avec son emphase habituelle à l'accord du siècle.
Ça sera de loin, si ça marche, le plus important accord jamais conclu. Pas seulement le plus important accord commercial. Ce sera de loin l'accord commercial le plus important, mais aussi la plus importante entente jamais signée. Les deux premiers et plus grands pays au monde qui signent un accord économique, on n'aura jamais rien vu de semblable.
Mais malgré ses amabilités, aucun des points les plus sensibles ne semble avoir été tranché. Washington reproche à Pékin des transferts de technologies forcés ou les subventions massives accordées aux entreprises chinoises. Les deux pays, depuis des mois, se battent à coups de tarifs douaniers sur des centaines de milliards de dollars de produits. L'économie chinoise et plus largement mondiale s'en trouvent affectées. Derrière ce bras de fer, l'enjeu est capital pour les deux premières puissances économiques mondiales, la domination des futures industries de haute technologie.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a dénoncé hier des tentatives d'intimidation visant ses proches et il tient pour responsable Nicolas Maduro, le chef de l'État contesté. Juan Guaido veut forcer le président socialiste à organiser une nouvelle élection présidentielle et il a présenté hier son plan pour sortir le Venezuela du désastre économique et social dans lequel il se trouve, Olivier Poujade.
Dans l'amphithéâtre de l'université centrale de Caracas, la ferveur des partisans de Juan Guaido accompagne chacune de ses annonces. Nicolas Maduro accuse les États-Unis de bloquer l'arrivée de marchandises sur le territoire. Juan Guaido a, lui, une toute autre vision des choses.
L'unique blocage, il se trouve sur les comptes bancaires des Vénézuéliens corrompus. Entre 200 000 et 300 000 millions de dollars volés à la nation, souverainement et en toute responsabilité, l'Assemblée nationale, moi-même, nous protégerons les actifs de la nation pour qu'ils arrêtent de voler l'argent du Venezuela.
Récupérer l'argent public en comptant sur le soutien des puissances étrangères.
Cette action, nous la mènerons avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe, dont je remercie le Parlement de reconnaître notre transformation démocratique.
Le jeune opposant vénézuélien semble sûr de son plan, mais il ne pourra pas agir sans débloquer sa confrontation politique avec Nicolas Maduro.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture à Caracas avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Retour à la normale ce matin à la gare Montparnasse à Paris après une panne électrique hier qui a fortement perturbé la circulation des TGV. Le temps de ce vendredi 1er février marqué par une vigilance orange pour vagues et submersions en Corse du Sud, dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme sont eux en vigilance orange à la neige et au verglas. 5 départements des Alpes sont en alerte orange pour des avalanches. Les températures au meilleur de la journée seront comprises entre 5 et 10 degrés du nord-est à la Bretagne, 7 à 14 degrés partout ailleurs. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. 7h14 sur France Culture.